Bon, j'aborde le champ de la philosophie sur la question du libertarisme, le cœur du libertarisme étant un des cœurs du libertarisme étant la propriété de soi, d'où le titre, État social, propriété commune et propriété de soi. Donc comment aborder la question de la propriété, plutôt comment aborder la question de la propriété commune privée avec la propriété de soi pour discuter de l'État social. Donc je suis parti d'abord d'une définition de ce qu'est la propriété de soi. Et donc la première fois que la propriété de soi a été discutée, ou du moins en tant que telle, ça remonte assez loin. Je suis remonté jusqu'à Overton, dans une flèche contre tous les tyrans. Chaque individu est naturellement doté d'une propriété individuelle qui ne doit pas être envahie ni usurpée par quiconque. Chacun détient pour lui-même une propriété de soi, sans quoi il ne pourrait être lui-même. Voilà, on part de cette idée. Donc l'idée générale de la liberté, ce qui pose d'abord la question de la liberté. Alors un peu plus tard, dans des travaux beaucoup plus connus et beaucoup plus larges, c'est John Locke qui va être un des penseurs sur lequel va s'appuyer le libertarisme, en l'occurrence de droite. Je vais essayer de démontrer d'une certaine manière que c'est une erreur de la part des libertariens de droite de s'approprier Locke. Donc tout homme possède une propriété sur sa propre personne, le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons dire qu'ils lui appartiennent en propre. Donc là, on a une première idée de à la fois la propriété de soi, donc tout homme possède une propriété sur sa propre personne, et de la propriété du monde, la propriété des ressources externes, donc le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons dire qu'ils lui appartiennent en propre. Ce à quoi on peut rajouter la clause lockéenne qui dit les choses lui appartiennent à condition qu'il en laisse suffisamment pour les autres. Ce qui a été, ce qui en soi est difficilement tenable. Donc la question que je vais me poser ici, c'est d'envisager la question de l'état social sous l'angle de la propriété de soi et de la propriété du monde. Donc pour ça, je vais convoquer trois champs théoriques en fonction du statut qu'il donne à la propriété de soi ou pas, puisque tous ne raisonnent pas en termes de propriété de soi, et du statut qu'il donne à la propriété des ressources externes. Donc je vais voir trois champs, hein. D'abord le libertarisme dit de droite traditionnel, puis la philosophie politique plutôt égalitaire, libérale, John Rawls, Ronald Dworkin, Amartya Sen. Et enfin, j'essaierai de dépasser cette confrontation-là avec les libertariens de gauche. Donc, que nous dit le libertarisme traditionnel? Je vais donner quelques noms plus tard, mais c'est notamment Murray Rothbard, Robert Nozick, selon lesquels la défense de la propriété de soi est inconditionnement associée à la propriété des ressources externes, c'est-à-dire la propriété privée, précisément des moyens de production. Donc, ça veut dire que d'abord, chacun a droit à la propriété privée de sa propre personne, donc la défense de la propriété de soi. Chacun a des droits moraux sur les fruits de l'utilisation de son corps. En l'occurrence, c'est un prolongement de ce que raconte John Locke. Et donc, il est interdit d'obliger qui que ce soit à se mettre au service de quelqu'un d'autre ou lui donner son produit. Donc, la conséquence de ça est évidemment le rejet de toute forme de protection sociale, toute forme d'état social. Les références théoriques sont deux références théoriques qui me paraissent majeures, sont celles de Robert Nozick, Anarchie, État, Utopie, 1974, et celle de Murray Rothbard, L'éthique de la liberté, dont la date m'échappe, peut-être 71 ou 72, peut-être vous pourrez me corriger. Et donc, comment le libertarisme traditionnel, libertarisme de droite, justifie ces questions-là? Donc, ils ont une théorie de la dotation, une théorie de la dotation. Donc, comment sont réparties, comment sont distribuées les ressources? Comment légitimer le fait que les ressources soient distribuées d'une telle manière? On a trois principes. Le principe d'acquisition, qui est celui de la clause lockéenne que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, chacun est libre de sa propre personne. Chacun est propriétaire de ce qu'il a produit, à condition, la clause lockéenne rajoute, à condition d'en laisser suffisamment pour les autres et d'assez bonne qualité. Un principe de transfert, à savoir toute personne, toute ressource qui a été transférée de manière juste à partir d'une situation juste, à savoir fondée sur le principe d'acquisition, sera juste. Et donc le principe de rectification, ça signifie que il sera nécessaire qu'un État, par exemple, intervienne uniquement dans le cas où le principe de transfert n'a pas été respecté. Donc l'État ne peut intervenir que pour défendre en quelque sorte des rapports de propriété qui se fondent sur le principe d'acquisition et la clause d'OQN. Donc si la distribution initiale est juste, conformément au principe d'acquisition, toute distribution qui résulte de cette distribution initiale avec des échanges libres, conformément au principe de transfert, sera juste. Donc les échanges ne sont pas libres, il sera nécessaire de rectifier la distribution. L'exemple qui est donné ici, c'est celui de Wilt Chamberlain. Peut-être que vous êtes certainement familier de cet exemple-là. C'est l'idée quelqu'un qui joue très très bien au basket, en l'occurrence Wilt Chamberlain, les individus qui vont le voir jouer acceptent de payer une certaine somme, ce qui les appauvrit un tout petit peu en fonction de la somme qu'ils payent. Et Wilt Chamberlain est extrêmement riche à la fin. Et en l'occurrence, cette distribution est parfaitement juste parce que personne n'a forcé les spectateurs d'aller voir Chamberlain jouer au basket. Et donc, mettons, chacun donne 10 euros pour le voir jouer. 1 000 personnes donnent 10 euros pour aller voir jouer Chamberlain au basket. Et donc, Chamberlain a 10 000 euros, 10 fois 1 000. Et donc, Chamberlain a 10 000 euros de plus, les autres ont 10 euros de moins. Mais la distribution est parfaitement juste parce qu'elle est conforme au principe de transfert. Même si, en l'occurrence, elle viole le mode de distribution initiale. Donc, ça veut dire que, conformément au libertarien traditionnel et à ces trois principes évoqués précédemment, aucune théorie planifiée, donc aucun état social en l'occurrence, est défendable, ce qui signifie que les personnes ne peuvent pas être utilisées sans leur consentement. Donc il n'est pas question de prélever des impôts à qui que ce soit si les personnes ne le souhaite pas. Donc on a une priorité de la liberté individuelle, non seulement une priorité, mais une inconditionnalité de la liberté individuelle, plutôt que l'égalité. La question de l'égalité n'est même pas évoquée sur ce champ théorique. Donc on a une défense absolue des droits de propriété. Voilà, des droits de propriété privés sur les ressources externes, et toute redistribution publique est absolument bannie parce qu'elle n'est pas conforme au principe d'acquisition. Donc l'État social, disent ces auteurs, viole la propriété de soi. Donc la question qu'on pose ici, c'est que l'État social, ce que disent ces auteurs, c'est que l'État social est opposé à la liberté individuelle et donc à la propriété. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre cette contradiction? Alors, il y a deux manières de la résoudre. La première manière, c'est de rejeter le libertarisme de droite, libertarisme classique, de dire ça n'a aucun sens, c'est pas de cette manière qu'il faut aborder les problèmes. Ce que je veux voir ici dans un premier temps, c'est ce que raconte la philosophie politique, que j'ai peut-être de manière un peu rapide qualifiée d'égalitaire, où on aborde pas mal d'auteurs différents, ou alors prendre la question du libertarisme de face, donc de dire, comme l'avait dit Jerry Cohen, soit on refuse directement le libertarisme parce que les conclusions ne nous plaisent pas, c'est le cas des égalitaristes dont je vais parler dans un instant, soit on réfute le libertarisme en disant les hypothèses du libertarisme sont intéressantes, sauf que les conclusions auxquelles elles aboutissent ne sont pas intéressantes. Donc où est le problème? Soit c'est les hypothèses qui posent problème, et dans ce cas-là, on est dans cette logique-là, soit les hypothèses sont valables, mais c'est les conclusions, le raisonnement entre les hypothèses et les conclusions qui ne sont pas valables. C'est ce qu'on verra avec le libertarisme de gauche. Donc, d'abord voir l'égalitarisme qui précisément ne dialogue pas avec le libertarisme de droite et qui défend a priori une certaine forme d'égalité. J'ai précisé une certaine forme d'égalité parce que chez John Rawls, par exemple, la liberté est un principe prioritaire sur l'égalité. N'empêche qu'ici, l'égalité est quand même un principe essentiel, et donc une certaine forme d'égalité sur les pouvoirs des personnes et sur les ressources naturelles. Ça veut dire qu'on a un rejet implicite de la propriété de soi. La propriété de soi n'est pas discutée là, mais elle n'est pas considérée comme centrale. Et ce qu'on a aussi et surtout, c'est que à la fois la productivité des individus et la distribution des ressources sont soumises à des principes égalitaires de distribution. Donc on a ces principes-là qui disent, voilà, il faut que les ressources soient distribuées d'une certaine manière, de façon égalitaire. Et donc ce qu'on a là, c'est une défense de l'État social qui se fonde sur une opposition entre l'égalité et la liberté. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre l'égalité et la liberté. Et pourquoi c'est Pourquoi cette opposition-là? Parce que les personnes qui sont talentueuses, qui sont jugées comme talentueuses, dont la productivité est supérieure, leur permet d'avoir plus de ressources, le sont d'abord par chance. Si vous êtes doté d'une certaine productivité, ça veut dire que vous avez des ressources naturelles de naissance, ou alors que vos talents correspondent par hasard aux talents qui sont le plus rémunérés dans la société à un moment donné. Donc les inégalités, pour ces raisons-là, sont injustes. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir une politique redistributive qui soit d'une certaine manière égalitaire, qui distribue de manière plus ou moins égalitaire les pouvoirs individuels et les ressources naturelles. Donc la question que se posent ces auteurs, dont je vais donner quelques exemples tout de suite, c'est de quelle égalité on parle. C'était le fameux article d'Amartya Sen 1979, Equality of What. Donc, on peut avoir une égalité de bien-être. Ça, c'est ce que dit une égalité, une certaine forme d'égalité de bien-être. Ce que dit John Rawls dans Théorie de la justice 1971, à laquelle précisément répondait Robert Nozick dans État, Anarchie, Utopie. Donc, sous quelle forme John Rawls présente l'égalité? Le principe prioritaire étant celui de liberté. John Rawls présente les inégalités sous la forme du principe de différence, à savoir que les inégalités sont acceptables, mais elles doivent profiter aux plus pauvres, voilà, aux moins bien dotés. Donc voilà, on est dans une certaine forme d'égalité, donc il faut du moins corriger les inégalités. On a une égalité en termes de... Alors ça, John Rawls, c'était le fondement même de la philosophie politique dite que j'appelle ici égalitaire, qui a émergé dans les années 70. Elle a été précisée un petit peu plus avec, là, je vais évoquer Ronald Dworkin et Amartya Sen. Ronald Dworkin, pour qui les inégalités doivent être en termes d'opportunités, à savoir que tous les individus, pour ne pas violer le principe de liberté individuelle, il est question de donner aux individus le même ensemble d'opportunités au début de leur existence, la logique de théorie de la ligne de départ. Donc tout le monde a égalité sur la ligne de départ, et puis après chacun se débrouille en fonction de ses dotations, en fonction de ses choix de travail loisir, et les inégalités qui arrivent ne seront pas injustes à partir du moment où tout le monde est parti à égalité. Et puis on a un troisième champ ici, parmi une multitude de champs, trois que j'aborde ici, c'est celui d'Amartya Sen. Amartya Sen, il raconte que ce qui doit être égalisé sont les capacités. Donc les capacités, c'est un critère beaucoup plus large qui regroupe globalement ce qui permet à chaque individu de parvenir à la réalisation de soi. Donc ça peut être tout un ensemble de choses, à savoir ce qui permet aux individus de pouvoir réaliser leurs objectifs de vie à partir d'une distribution initiale. Donc ce qui doit être distribué de manière égalitaire, ce sera ces capacités qui permettront aux individus de réaliser leur existence. Et donc, troisième champ maintenant, je vais passer au libertarisme de gauche qui a pour tâche de dépasser cette opposition, ou plutôt de dialoguer avec les libertariens de droite, parce que les égalitaristes dont j'ai parlé précédemment ne discutent pas avec les libertariens de droite, ils rejettent la théorie. Ce que disent les libertariens de gauche ici, c'est de dire on va prendre la théorie en tant que telle, on va essayer de la discuter avec leurs propres outils. Avec leurs propres outils, on va voir que finalement, on va arriver à des conclusions contradictoires. Donc il s'agit non pas d'avoir une priorité de la liberté sur l'égalité, comme le font les libertariens de droite, ni même de trouver un équilibre instable entre égalité et liberté, comme le font les égalitaristes, mais de dépasser cette opposition liberté-égalité, et donc de rendre compatible l'égalité et la liberté avec la propriété de soi. Donc il faut accepter la propriété de soi. Mais contrairement aux libertariens qui incluent la propriété privée des ressources, en particulier des moyens de production, dans la propriété de soi, là on a une opposition, plutôt une juxtaposition entre d'une part la propriété de soi, à savoir la liberté individuelle, et la propriété des ressources externes. Donc, on peut, pour les libertins de gauche, on a à la fois une acceptation de la propriété de soi comme liberté individuelle et un refus de la propriété privée d'une certaine forme, une certaine forme de refus de la propriété privée des ressources externes, en l'occurrence de la propriété privée des moyens de production. Donc la logique ici, c'est de critiquer le capitalisme par la voie libertarienne. Libertariens, Nozick, Rothbard, Kirchner et d'autres, utilisant la liberté et donc la propriété de soi pour défendre et pour justifier le capitalisme. Là, on a des auteurs qui vont utiliser les mêmes outils que le libertarien de droite pour critiquer le capitalisme. Donc là, je vous ai mis deux ouvrages assez importants, l'ouvrage de Jerry Cowen, Self-Ownership, Freedom and Equality, et l'ouvrage collectif qui est assez fondateur du libertarisme de gauche, édité par Valentine et Stirner, Les origines du libertarisme de gauche, une anthologie des écrits historiques. Donc, on est toujours dans le principe d'acquisition et le principe de transfert libertarien sur lequel tout ce qui résulte d'une situation juste par des moyens justes est juste. Donc, on est dans cette logique-là. Sauf que le problème qui se pose ici, c'est que dans la mesure d'une société capitaliste fondée sur des rapports de classe, l'exploitation capitaliste viole la propriété de soi au sens où la classe prolétaire, la classe des travailleurs, est elle-même privée d'une partie du produit de son travail et donc est privée d'une partie de la propriété d'elle-même du fait de l'inégalité d'accès aux ressources naturelles. Dans la mesure où l'accès aux ressources naturelles, donc aux ressources externes, n'est pas équivalent pour tous, une partie des individus, une partie des classes sociales, en l'occurrence la classe des travailleurs ici, n'est pas entièrement propriétaire d'elle-même, au sens où une partie de son produit est privée. Donc il s'agit ici de défendre la propriété de soi, d'une certaine forme de propriété de soi, mais la propriété de soi universelle ne va pas garantir l'autonomie des individus, donc l'épanouissement individuel, parce qu'elle crée des agents, en l'occurrence les agents travailleurs, qui sont dépourvus de cette autonomie. Donc la propriété de soi ne va pas garantir l'autonomie des individus, et donc il est nécessaire, si on veut conserver la propriété de soi, de l'associer à une propriété commune des ressources naturelles. Donc de rejeter l'idée de propriété privée des ressources naturelles. Donc on a une conjonction entre la propriété de soi et la propriété commune du monde, des ressources naturelles, des moyens de production. Les débats existent sur la question. Donc on peut utiliser la propriété de soi si on l'associe à la propriété commune du monde pour défendre la liberté réelle qui s'oppose à la liberté formelle défendue par les libertariens de droite, qui nous permet de dépasser l'opposition entre liberté et égalité. Donc on a propriété de soi plus une propriété commune du monde permettrait de pouvoir associer à la fois la liberté individuelle et l'égalité, une certaine forme d'égalité. Donc l'état social ici, pour en revenir au sujet, il peut être conçu ici comme une forme de propriété commune. Donc l'état social, selon le degré qu'il va prendre, peut être conçu comme une forme de propriété commune des ressources externes, ou en d'autres termes, une propriété collective des moyens de production. C'est la raison pour laquelle je défends l'hypothèse, c'est pas le cas de tout le libertarien de gauche précisément, mais une lecture marxiste ou marxienne des libertariens de gauche implique une acceptation de la propriété de soi. Et donc, ça pourrait être un complément, ici, j'essaie ici de concevoir le libertarisme de gauche comme un complément de la théorie marxiste de l'État, au sens où l'État reflète les rapports de classe, plutôt que d'être vu comme un simple rapport de domination, ce qui n'est pas exactement ce que dit Marx, mais l'État est conçu comme un reflet des rapports de classe, et donc l'État social, c'est une forme d'appropriation plus ou moins important, d'appropriation partielle de la classe de l'État par la classe des travailleurs. Donc voilà, j'ai tâché d'être relativement bref, et j'en ai terminé sur cette esquisse de discussion d'une appropriation marxiste de l'État social et du libertarisme de gauche. Je vous remercie de votre attention.